Est-ce que ça va bien? Je me suis rendu compte, je crois que c'est la première fois que je vais prêcher ici en tant que membre de l'Église de l'Espoir. Alors, je suis vraiment content. Pour moi, je suis vraiment content d'avoir trouvé une église où est-ce que je suis chez moi, en famille. Alors, vous allez m'entendre dire souvent « bon matin » au monde, parce que pour moi, « bon matin », c'est ma manière de saluer les gens. Petit heads-up aussi comme ça. Là, moi aussi, si je me mets à pleurer, c'est pas prévu non plus. Présentement. J'ai pas prévu de pleurer durant la prédication que je vais faire aujourd'hui. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai amené mon sac en avant, ben vous le saurez plus tard. J'ai une belle surprise dedans pour les gens. Il y a juste Christian qui devrait savoir environ qu'est-ce qu'il y a dedans. Comment ça va? Est-ce qu'il y en a ici aujourd'hui qui dirait qu'ils se sentent particulièrement bien aujourd'hui? Je voudrais voir, il y en a quelques-uns, OK. Ah, il y en a quand même pas mal, c'est bon. Pour les autres, c'est moyen, c'est difficile un petit peu. Et ça introduit un petit peu bien qu'est-ce que je voudrais parler, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la guerre de nos âmes. Si on veut juste changer le PowerPoint, s'il vous plaît. La guerre de nos âmes. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la vie, on ne se sent pas tout le temps bien. On se lève le matin, parfois on se sent lourd, parfois on ne se sent pas lourd. Parfois, on arrive dans la vie, on se sent triste. Des fois, c'est juste les circonstances. Des fois, on a vraiment des choses qui sont tristes. Mais je ne sais pas si vous vivez la même chose que moi, mais des fois, j'ai l'impression que, des fois, jour après jour, il y a une légère lutte dans mon âme. Il y a une légère guerre qui se poursuit, qui continue. Puis parfois, c'est très difficile. Parfois, je me lève, c'est plus facile, je me sens léger. D'autres journées, je me lève, c'est comme, je sens que ça va être difficile aujourd'hui. On sent qu'il y a quelque chose qui nous manque. Est-ce que je suis tout seul à ressentir ça ou il y en a d'autres ici qui se ressentent la même chose? Oh, il y en a un qui a levé la main très vite. Il y en a d'autres. Fait oui, des fois on se lève, on voit que dans notre âme, il y a quelque chose, pas juste dans notre vie, mais aussi dans notre entourage, dans la société, dans notre monde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, on n'arrive pas à mettre les mots dessus, mais on sait que le monde ne tourne pas rond. Quand je rencontre quelqu'un et que je lui jase, tu sais, des fois il va me parler. Si on parle des nouvelles, c'est sûr que ça va toujours entrer dans le sujet presque constamment de qu'est-ce qui ne va pas bien dans ce monde. Il y en a-tu ici qui écoutent les nouvelles? Je fais beaucoup lever la main, hein? Vous pouvez lever l'autre si vous aimez mieux. Beaucoup qui ont, il y en a qui écoutent les nouvelles. J'écoute pas tant que ça les nouvelles, j'essaie de lire le journal. Et une chose qu'on revoit constamment, c'est justement, il y a quelque chose dans le monde. Les gens recherchent quelque chose. Il y a des conflits. Il y a de la corruption présentement. On en entend beaucoup parler. Différentes choses se passent dans ce monde. Et l'être humain, depuis qu'il est humain, depuis le début, essaye de définir le problème. Alors, le problème a été défini de différentes façons. Quelques exemples de la manière dont on définit le problème de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Nos circonstances. Alors, les circonstances font que on vit mal, on va mal, on se lève, on a un combat dans notre âme. Alors, on va mettre le problème sur peut-être comme les gens avec qui on se tient. Alors, on dit, bon, une mauvaise fréquentation, ça m'influence de la mauvaise manière. Peut-être un mauvais ami, un mauvais emploi, peut-être pour certains d'entre vous, un emploi où est-ce que vous dites, ben, je trouve ça pas facile, ça fait la guerre à mon âme. D'autres, le problème, vont dire, c'est la société. La société est complètement corrompue. Il y a quelque chose qui va pas, puis ça corrompt les gens. Fait que les personnes vont mettre le problème sur les circonstances. Donc, si le problème, c'est les circonstances, la solution, c'est d'améliorer nos circonstances. Alors, on va essayer d'avoir des meilleurs amis avec qui on va se tenir autour, qui vont avoir une bonne influence sur nous. On va essayer d'avoir un meilleur emploi, alors essayer d'avoir quelque chose. On va essayer d'améliorer notre société, de la rendre meilleure, parce qu'on dit, si c'est la société qui nous rend comme ça, ben on va essayer de l'améliorer pour la rendre plus. Un autre problème, ça peut être peut-être le domaine physique. Alors, mal dormir, mal pas avoir beaucoup d'exercice, on se sent lourd, on se sent etc. Fait que si le problème c'est ça, un peu d'exercice, bien manger, une bonne diète, on essaye de manger juste des raisins pendant une journée, ça va filtrer les toxines en nous, puis là on va se sentir beaucoup mieux, notre vie va être beaucoup plus facile. C'est vrai, histoire vraie, j'ai déjà entendu ça. Juste des raisins pendant une journée, il paraît que ça dégage les toxines. de ces temps-ci, ce qui est bien populaire, le problème, c'est au niveau psychique. Au niveau psychologique, il y a quelque chose qui se passe. On a des problèmes, on ne s'aime pas assez, on ne se comprend pas assez. Alors, si on définit que le problème, c'est le fait qu'on ne s'aime pas assez, on ne se comprend pas assez, on va essayer de trouver différentes façons de régler le problème. Pour certaines personnes, ça va être de rencontrer un spécialiste, un consultant, un psychologue. Pour d'autres, ça va être la méditation transcendantale. Il y en a d'autres, ça va être sous une certaine forme de religiosité. Alors, on va essayer de se tenir dans un endroit religieux où est-ce qu'on m'enseigne des bonnes valeurs. Est-ce que vous avez déjà vu ça aux alentours? Vous voyez que les gens réagissent de cette manière-là. Voici comment je vais m'améliorer, tout ça, parfois physique, psychique, au niveau de nos circonstances. Est-ce que vous le voyez un peu? Fait que moi, c'est constant. Même des fois, nous-mêmes, on a l'impression que s'il y a une chose qu'on change dans notre vie, ça va aller mieux. Moi, mon truc, c'est de faire le ménage chez moi. Y en a-tu qui ont le même truc ici, faire le ménage? Ah, il y en a deux en avant, c'est pas super. Il y en a deux. Ah, un autre ici. Fait que moi, quand je me sens pas bien, j'ai l'impression que si je fais vraiment un gros ménage dans mon sol, et pour ceux qui le savent pas, j'habite chez les Rois présentement, ils sont toujours contents quand je me sens comme ça. Alors, quand je me sens mal, des fois, je vais faire le ménage, je vais me dire, ça va m'aider, je vais me sentir mieux. Et ils sont pas là aujourd'hui, fait que je peux le dire librement, mais leur sous-sol est souvent très propre. Fait que, dépendant de ce qui est le problème, la solution va être autre. C'était ça l'idée que je voulais vous apporter. Dépendant le problème, la solution est autre. Et laissez-moi vous dire, on est tous des gens qui essayons de savoir quel est le bobo et comment le réparer. Même si on le dit pas de cette manière-là, on essaye tout de trouver le bobo d'une certaine manière et de le réparer par une manière, ce qui nous semble faire le plus de sens. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on va être intéressés à lire des magazines, à voir des petits articles, à aller chercher des petits faits. Certains d'entre vous aimaient peut-être pas lire beaucoup, mais on aime ça avoir des petits faits pour nous aider à comprendre comment le monde fonctionne et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Fait que ça, c'est constant. La Bible, évidemment, propose un problème et une solution. Pour tous ceux qui ont lu la Bible ici, vous savez que le problème est défini d'une manière, mais il y a aussi une solution. Alors, la Bible, c'est pas simplement un recueil de pensées religieuses que différentes personnes ont données, mais c'est surtout une histoire de Dieu et de ce monde-ci. Et la Bible va définir le problème de cette manière-là. Le problème que l'on a dans ce monde, ultimement, c'est toutes les choses que j'ai nommées tantôt, ça peut être des petites choses qui surviennent, puis on peut avoir besoin d'exercice, on peut avoir besoin de bien dormir, de manger, on peut avoir besoin des fois de changer nos circonstances, c'est sûr. Mais ultimement, le problème, ce ne sont pas ces choses-là, ce sont simplement des symptômes. Le vrai problème, la Bible dit, c'est que on a perdu la présence de Dieu. On a perdu la présence de Dieu. Et ça, c'est le vrai problème. La présence de Dieu, quand je dis ça, peut-être que c'est flou pour certaines personnes. La présence de Dieu, c'est de dire que Dieu est avec nous. Mais pas juste dans l'idée là qu'on sent une présence là métaphysique, où est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que je veux dire par Dieu est avec nous? C'est que Dieu est en notre faveur. Dieu nous est favorable. C'est ça quand on dit que c'est la présence de Dieu. C'est que Dieu est parmi nous, mais on a sa bénédiction. On a sa faveur. Il est pour nous. La Bible va dire ça de cette manière-là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, si Dieu, comme le dit la Bible, est la source de tous les biens, la source de toute chose qui est bonne dans cet univers, si Dieu est pour nous, on peut être sûr que les choses vont bien tourner, vont bien aller. C'est la présence de Dieu qu'on recherche dans ce monde désespéré, dans ce monde qui est brisé. Alors, je vais partir de là. Je vais partir de là, la présence de Dieu. Si vous voulez tourner avec moi dans Josué chapitre 5. Alors, Josué qui est le sixième livre de la Bible. Vous commencez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. On a même appris une chanson quand on était jeunes. Ceux qui ont été élevés dans les écoles du Mans, ça veut Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Fait que certaines personnes l'ont entendu. Fait que le sixième livre de la Bible, au chapitre 5, au verset 2. Je veux simplement vous donner le contexte. Si on veut juste changer, s'il vous plaît. Je vais vous donner le contexte parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de prendre un livre qui était vraiment compliqué à partager quelque chose et je m'en suis rendu compte vraiment en l'étudiant. Il est difficile parce qu'on dirait que c'est un contexte qui est vraiment très, très, très loin de qu'est-ce que l'on vit aujourd'hui. Qui d'entre vous a déjà lu Josué au complet? Okay. Est-ce que je suis tout seul? Mais je trouve que ce livre-là, il n'est pas facile. Quand on y réfléchit de notre temps aujourd'hui, le livre de Josué nous parle de la conquête. Et je vais vous expliquer c'est quoi le lien avec la présence de Dieu. Mais ça parle d'une conquête. C'est un peuple qui s'en va décimer d'autres peuples pour s'établir dans un pays. Et personnellement, moi, quand je regarde ça, puis Dieu... semble approuver ça. Fait que là, t'es comme, attends, Dieu, il permet qu'un peuple tue plein d'autres peuples, puis pour qu'ils puissent s'établir. Ça a l'air un petit peu comme d'un dieu tribal, nomade, là, qui leur permet de pouvoir s'en aller. Fait que c'est un contexte vraiment difficile. Où est-ce que je peux trouver des choses à partager? Et je pense que c'est parce qu'on est tellement loin. Dans notre société, on est rendu tellement loin dans notre définition de ce qu'est le monde, de qu'est-ce qui va bien, de qu'est-ce qui va mal, que vraiment, quand on lit ces choses-là, on a l'impression qu'on ne peut pas comprendre que c'est une autre époque, ou même des fois, il y a des gens qui ont dit que c'était un autre Dieu qui avait dit à ce peuple-là de conquérir les autres. Fait que c'est tellement loin de notre pensée qu'on a l'impression que ça n'a rien à voir avec ce que l'on vit aujourd'hui. Mais je veux juste vous donner un petit peu de contexte pour nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut aller dans Josué puis comprendre qu'est-ce que Josué essaie de nous dire pour nous. Et pour ça, j'ai besoin de vraiment faire un contexte. La première des choses que j'avais besoin de vous dire, c'est vraiment que le problème, c'est la présence de Dieu qui nous manque présentement. On manque la présence de Dieu. Et comment est-ce qu'on a perdu la présence de Dieu? Comment est-ce que ça se fait que présentement, la présence de Dieu ne se retrouve plus parmi nous? Eh bien, la Bible va continuer à nous dire que la présence de Dieu a été perdue par le péché qui mène à l'idolâtrie. Le péché qui mène à l'idolâtrie. Chaque personne, collectivement, tout le monde ensemble ou individuellement, on a décidé de repousser Dieu, de vivre indépendamment de lui, de prendre nos propres décisions par nous-mêmes, de même se définir nous-mêmes par ce que l'on connaît, ce que l'on est. Et ça, la Bible, cette attitude-là d'indépendance envers Dieu, la Bible appelle ça le péché. Même aujourd'hui, le péché est vu est défini de manière différente. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est tellement dur à comprendre. Le péché, c'est défini comme des actions mauvaises que l'on fait envers son prochain. Oui, mais c'est plus que ça. Le péché est défini aussi comme étant des actions que l'on fait contre notre prochain. Ça peut être des choses que l'on ne fait pas à notre prochain. Alors, des choses qu'on devrait faire, mais qu'on décide de ne pas faire. Pour une telle et telle raison. La Bible dit même aussi que le péché, c'est dans nos pensées. On pense des choses qu'on ne devrait pas. On entretient des genres de pensées qu'on ne devrait pas entretenir. Et même, ça va jusque dans nos motivations. On est motivé à faire quelque chose pour les mauvaises raisons. Et la Bible nous montre que quand Dieu a créé l'univers, il a décidé d'y mettre des lois. Alors, on a les lois de la gravité, mais aussi au niveau spirituel, il y a aussi des lois. Alors, qui devait définir qui on est comme être humain? C'était Dieu. Qui devait définir c'était quoi notre mission? C'était Dieu. Et là, je vais juste vous partager qu'est-ce que la Bible dit, que peut-être que vous êtes d'accord, peut-être pas. Mais c'était comme ça que la Bible définit qui on devrait être, ce qu'on devrait faire. Et les premiers êtres humains ont décidé de repousser Dieu et de dire « Non, j'ai décidé que moi, je vais décider par moi-même qui je vais être. J'ai pas besoin que tu me dises qui je suis. J'ai pas besoin que tu me dises ce que je dois faire. Je vais essayer de me débrouiller tout seul. » Est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Est-ce qu'il y en a ici qui se sentent là, oui, effectivement, que je l'ai dit de manière aussi directe à Dieu ou que je l'ai vécu, j'ai voulu vivre par moi-même. Y en a-tu ici que ça fait ça? Ouais, vous pouvez lever la main, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire amen, dépendant comment. Fait que différentes manières dans les églises chrétiennes de pouvoir approuver. Fait que chacun d'entre nous, on a décidé individuellement et collectivement, tant qu'être humain, on va décider par nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on va faire. Et la conséquence de cette attitude-là, fait que c'est une attitude qui se répète. C'est pas simplement des actions, mais c'est une manière de vivre. Fait qu'on vit par nous-mêmes, on se définit nous-mêmes, et c'est ça que la Bible appelle le péché. Et lorsque l'on a une attitude comme ça, la conséquence de cette attitude-là, la Bible appelle ça l'idolâtrie. Et vous voyez que c'est tous des mots là, qui sont tellement loin de nous, l'idolâtrie, le péché. À part si on a grandi dans un milieu religieux, c'est plus des choses qu'on entend parler. Fait que c'est pour ça que je dois vous expliquer un contexte. Mais l'idolâtrie, c'est vraiment c'est une attitude de vie où est-ce qu'on décide de trouver notre identité, notre satisfaction, notre bien-être et notre plénitude dans quoi que ce soit autre que Dieu. Je répète. L'idolâtrie, c'est de trouver notre identité, notre satisfaction, notre bien-être et notre plénitude dans quoi que ce soit autre que Dieu. Alors, le péché reste quelque chose de très général. Tu sais, comme la Bible va appeler ça, on est des pécheurs. L'idolâtrie, c'est un peu plus spécifique. Où est-ce qu'on dit? Vu qu'on a décidé d'être indépendamment de Dieu, on a décidé de le trouver en autre chose. Fait que le vrai problème de l'être humain, comment le définir, c'est de trouver, mais dans quoi est-ce qu'on a décidé de trouver notre identité, notre plénitude, notre satisfaction. Et ça peut se traduire très concrètement dans des gestes, comme par exemple, j'ai déjà souvent averti même ma fiancée Ellie de ça, que ça pourrait se passer. Imaginons que je retrouve pleinement ma satisfaction dans mon confort. Alors, j'ai pas décidé de retrouver ma satisfaction dans Dieu ou dans qu'est-ce qu'il me demande, mais j'ai décidé de le trouver dans mon propre confort. Je vais revenir à la maison à la fin d'une journée. Peut-être que les hommes vont se sentir concernés par ça. Je vais revenir à la maison. Et là, qu'est-ce que je m'attends à avoir chez moi? Je m'attends à avoir mon confort. Moi, là, même, des fois, là, je suis capable d'imaginer mon divan dans ma tête, là, puis la trace que je vais laisser dans mon divan. Tellement que j'ai hâte de me retrouver chez moi pour me reposer. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais arriver chez moi et que finalement, je ne vais pas retrouver mon lieu de confort que j'espérais, mais je vais retrouver un lieu où il y a d'autres problèmes qui s'en viennent, parce que je ne sais pas pourquoi. Admettons que peut-être, désolé Ellie, ça ne va pas très bien, a besoin de me parler de sa journée, a besoin de me parler de qu'est-ce qui se passe, mais je ne suis pas disposé. Je recherche présentement mon confort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ellie va devenir mon obstacle à mon confort. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais essayer de me débarrasser de mon obstacle le plus vite possible. Je suis désolé. Faut que je l'avertisse d'avance parce que sinon... Pour ceux qui me connaissent, puis je vous parle d'une situation qui va probablement se passer et qui est réelle dans ma vie. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je suis un gars que le confort, des fois, peut devenir mon idole. Alors là, des fois, quand j'arrive au bureau, puis que j'ai pas le goût de parler à personne, les gens vont me voir arriver. Puis là, je ferme ma porte, puis là, je suis comme « Ah, je suis bien ». Fait que là, pour remédier à ça, j'ai invité Christian à venir avec moi dans mon bureau. Comme ça, je ferme la porte, puis je suis comme « Ah, t'es là! » Mais vous voyez, l'idolâtrie, c'est pas quelque chose dans les airs, c'est quelque chose de très concret dans notre vie. Ça influence comment on réagit avec les gens qui sont autour de nous. C'est pas quelque chose où est-ce qu'on... C'est en l'air, c'est comme « Bon, j'adore ça! » Ça me fait produire des réactions, parfois mauvaises. Ça me fait des mauvaises motivations aux choses que je veux. Si, pour moi, je trouve mon identité dans la manière dont je gagne ma vie, ben, je vais avoir hâte de le dire. Fait que là, je vais voir quelqu'un, je dis bonjour, je me présente, je m'appelle Samuel, je suis ça. Fait que mon identité devient ce que je fais. Et aujourd'hui, dans notre culture, vous allez voir, il y a même des idoles de culture. La première question que quelqu'un vient vous poser après, « Bonjour, je m'appelle, comment t'appelles-tu? » Ils vont te demander, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Fait que des fois, je suis médecin, neurologue. Des fois, tu vas dire, « Ben, j'enlève les vidanges, là. » Fait que plus gêné. Mais c'est ça, parce que dans notre société, des fois, ce par quoi on gagne notre vie devient beaucoup notre identité, ce que l'on est. Et ça, faut en être conscient. L'idolâtrie, si la Bible dit que le problème, c'est le péché qui mène à l'idolâtrie, ben, ça devrait pouvoir refléter notre monde, et je crois qu'effectivement, ça reflète exactement ce que l'on vit à tous les jours. Il y a des conflits. Moi, je pense que c'est souvent des conflits d'idoles. Un autre exemple de l'idolâtrie qui peut aller très loin, que l'on ne vit pas aujourd'hui, en tout cas que c'est pas mal rayé. L'idolâtrie, ça peut être aussi, on trouve notre identité dans un autre Dieu. Un Dieu que peut-être des fois on a inventé à notre image. Dans le temps où ce que Josué vivait, il y avait beaucoup d'idoles, des gens qui adoraient des autres dieux. Et on a beaucoup d'écrits qui nous montrent que des fois, ce Dieu-là nous demandait de sacrifier nos enfants. Alors aujourd'hui, ça nous semble complètement impensable que des gens puissent offrir des enfants à leur Dieu. Mais dans le temps, ça se faisait. Puis il y en a probablement encore aujourd'hui. C'est juste qu'on est peut-être moins au courant. Veux-tu? L'avortement. Alors, si notre Dieu nous dit que c'est ton corps que tu dois respecter le plus en premier et qu'un bébé vient entrer en contradiction, ben. Puis là, je parle bien sûr d'autres choses que des raisons médicales. Admettons que c'est simplement un choix qu'on veut, puis là, c'est comme ben, mon corps, c'est ça qui compte, je veux pas perdre mon autonomie, il faudra que je m'occupe d'un enfant. Eh bien, ce qui peut arriver, c'est qu'une conséquence, ça peut être on sacrifie notre enfant. Mais dans le temps, c'était comme ça. On sacrifiait des enfants à un Dieu qui, la Bible dit, était inventé. Alors là, on commence à rentrer un petit peu plus dans le temps de Josué. Dans le temps de Josué, quand Josué est arrivé avec le peuple d'Israël dans le pays, on n'avait pas seulement des gens qui vivaient leur vie tous les jours, tout ça, on avait des idolâtres, mais poussés à l'extrême, des gens qui faisaient qui sacrifiaient leurs enfants, des gens qui avaient des orgies collectives, etc. Alors, on avait le chaos total dans ce temps-là. Comment est-ce que Dieu, lui, réagit à l'idolâtrie? Parce que là, je vous parle des conséquences humaines, tu sais. Fait que d'humain en humain, on a des conséquences. Mais comment est-ce que Dieu réagit à l'idolâtrie? Et la Bible nous montre qu'il y a trois manières qu'il réagit. Alors, la première, c'est « Il nous laisse faire et nous nous détruisons nous-mêmes ». Alors, pour ceux qui se demandent, ben si Dieu existe, pourquoi il m'empêche pas de faire ce que je fais? Pourquoi est-ce qu'il me laisse aller dans qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce qu'il me laisse faire? Mais la réponse, c'est que des fois, la conséquence, c'est que Dieu va vous laisser faire. Il va simplement vous laisser aller et votre conséquence, ça va être que vous allez vous détruire vous-même. Malheureusement, les parents, c'est un choix triste et déchirant lorsqu'on décide de faire ça ou ce que un enfant, on le sait que notre enfant va se détruire par son comportement qu'il a. Et un moment donné, est-ce que vous pouvez obliger vos enfants à faire ce que vous voulez, ce que vous pensez qui est le mieux? Évidemment, non. Fait que qu'est-ce que vous faites? Ben, vas-y, tu vas vivre les conséquences de ce que tu fais. Alors, Dieu fait exactement la même chose. Il nous laisse aller. Des fois, il va décider activement de détruire le péché. Des fois, il va juger activement le péché. Pour ceux qui se disent, genre, qu'ils vont pouvoir vivre de leur manière complètement jusqu'à la fin de leur jour, Dieu peut le laisser faire. Des fois, il va juger durant cette vie, mais vous pouvez être sûr, la Bible enseigne que s'il ne le juge pas maintenant, il va juger après la mort. Et là, on va devoir subir les conséquences de nos actions. Ou, il y a une troisième manière, et ça que je pense que moi, c'est ma préférée personnellement. La troisième manière dont il réagit à l'idolâtrie, c'est il nous sauve de notre idolâtrie. Alors, trois manières dont Dieu réagit, c'est il nous laisse faire, il décide activement de le juger, ou il nous sauve de notre idolâtrie. Et ces trois idées-là se retrouvent dans Josué, si on veut juste changer encore une fois. Ces trois idées-là de ce que Dieu fait se trouvent dans Josué, et ça nous explique beaucoup le contexte de Josué. Dans la conquête, c'est que Dieu a montré ce qui se passait lorsqu'il laissait les peuples à leur propre idolâtrie. Il les a laissés aller, il a montré jusqu'à quel extrême ça peut aller. Il a alors décidé de prendre un peuple à part pour le sauver et de le mener dans la terre promise. Et en prenant un peuple, en le mettant à part, il a décidé de montrer qu'il voulait aussi sauver des gens de l'idolâtrie. Et ces gens-là étaient là pour aller dans le pays, et le pays représentait la présence de Dieu. Tu t'en vas à un endroit pour aller vivre la bénédiction de Dieu. C'était comme ça que Dieu voulait illustrer sa présence. Et en allant dans ce pays-là, le peuple allait profiter de la bénédiction de Dieu et il allait juger l'idolâtrie des autres peuples. Et là, on rentre vraiment dans le contexte de Josué, où est-ce qu'on l'a... OK, là, ça commence à avoir du sens. Ça commence vraiment à avoir du sens à ce moment-là, parce que si on voit que le vrai problème, c'est l'idolâtrie, et que Dieu a le droit de nous juger, eh bien, le fait qu'un peuple arrive et juge ces peuples-là ne nous semble plus si bizarre. Parce que c'était qu'est-ce que Dieu avait demandé à faire. Et des fois, la question qui va arriver avec ça, c'est, mais est-ce que Dieu va nous demander de partir en guerre sainte un moment donné? Est-ce que, secrètement, tous les chrétiens sont en train de se pratiquer à l'épée pour dire, on attend juste que Dieu nous dise d'aller frapper contre l'idolâtrie, puis on y va, là. Puis là, vous allez voir, les nations infidèles, ils vont en manger toute une. Et je peux affirmer avec très grande certitude que non, nous ne sommes pas en train d'être entraînés à l'épée, sauf peut-être ceux qui en font un sport. Mais cette conquête-là qui a eu lieu et qui n'a pas fonctionné, je vous gâche le punch, la conquête n'a pas complètement fonctionné. Cette conquête-là a été accomplie en Jésus-Christ. La présence de Dieu que chaque être humain a besoin, qui était symbolisée par le pays, Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité et nous a ouvert l'accès complet à la présence de Dieu. Alors, tous ceux qui ont confiance en Jésus-Christ vont vivre la présence de Dieu et donc le repos de leurs âmes. D'un autre côté, tous ceux qui ne recevront pas Jésus-Christ, eux autres vont devoir un jour rendre compte à Dieu de tout ce qu'ils ont fait. Alors le chrétien n'a plus besoin d'aller faire la guerre parce que Jésus-Christ, c'est celui qui sauve et en même temps, c'est celui qui va juger. Alors si vous avez un voisin chrétien, ne vous inquiétez pas, il ne partira pas à la guerre. Et maintenant, finalement, là, on rentre dans notre texte. Désolé si le contexte a été long, mais il fallait que je passe par ça parce que sinon, c'est dur à comprendre Josué. Et on va parler de la préparation de l'armée de Jésus-Christ. La préparation de l'armée de Jésus-Christ, c'est nous, présentement, on ne part pas en guerre contre les autres nations, on part en guerre contre l'idolâtrie. L'idolâtrie que je vous parlais, l'idolâtrie de notre propre cœur, l'idolâtrie du cœur des autres, et l'idolâtrie des idoles de notre société. C'est ça le combat du chrétien. Le combat du chrétien, ce n'est pas d'une personne à une autre personne. Et la Bible va le dire de cette manière. On ne se bat pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire qu'on ne va pas tuer quelqu'un d'autre, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes, etc. Ils vont parler que notre combat est spirituel. On va se battre contre l'idolâtrie de notre cœur, de ceux des autres et de notre société. Donc, l'armée de Jésus-Christ est toujours en avant-bataille. Tout ça explique mon titre. On est l'armée qui est toujours en avant-bataille. Il faut toujours être prêt pour le combat. L'avant-bataille, c'est vraiment le moment le plus important parce que c'est là où on se prépare pour le combat qui est à venir. Eh bien, nous autres, je peux vous dire, à chaque matin, à chaque instant, vous allez être en combat. Et ça, c'est normal. La vie chrétienne ne veut pas dire plus de combat. La vie chrétienne ne veut pas dire plus de soucis. La vie chrétienne veut dire, là, on sait vraiment contre quoi on se bat, puis on y va. Est-ce que ça va? Vous me suivez? J'ai pas perdu trop de monde? OK, c'est bon. Parce que je peux pas revenir en arrière. Je suis trop avancé. Alors, on va lire le passage. Je vais lire Josué 5, verset 2 jusqu'au verset 9. Dans ma version, c'est la version Second 21. Peut-être les mots changent dépendant des versions. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Ça commence bien. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralote. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sortit d'Égypte. Tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Ils n'avaient pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncit. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de les circoncire toute la nation, ils restèrent sur place, dans le camp, jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé Gilgal, ce qui veut dire rouler, jusqu'à aujourd'hui. » Alors là, nous avons une nouvelle génération d'Israélites qui se préparent à entrer dans la terre promise, qui pour eux est le repos de Dieu. On a ici une armée qui est juste avant le combat. Ils ont déjà envoyé des gens pour aller voir dans quelle ville ils vont aller. Ils ont vu que la ville avait peur d'eux autres. Ils sont encouragés. Ils vont foncer. Mais là, il y a des préparations à faire. La première préparation à faire, c'est que Dieu lui dit, « Voici, prends des couteaux de pierre et circoncis les hommes. Qu'ils soient adultes ou pas, on s'en fout, on les circoncis. » Moi, quand je lis ça, je suis tout le temps comme... Parce que là, après, tu lis là, que ça dit là, ils restent au camp jusqu'à leur guérison. Ça veut dire que ça l'a fait mal un petit peu. La circoncision était pour le peuple juif le symbole qu'il faisait partie du peuple de Dieu. Pour faire ce cours, la circoncision était le symbole demandé par Dieu pour montrer qu'il faisait partie du peuple de Dieu. La première des choses qu'un soldat a besoin avant de partir au combat, c'est de savoir qui il est, dans quelle armée il fait partie. Et de la même manière, pour nous, Jésus nous donne une nouvelle identité. Jésus nous donne une nouvelle identité. La circoncision était pour eux autres le fait de dire on se sépare de qu'est-ce qu'on était. On se sépare de notre passé. Eux autres venaient d'une lignée d'esclaves. C'était des enfants d'esclaves. Et Dieu leur dit, maintenant vous faites partie de mon peuple. J'ai fait rouler loin de vous votre honte qui venait d'Égypte. J'ai fait rouler loin de vous le fait que vous étiez des esclaves. Maintenant vous n'êtes plus des esclaves. Maintenant vous êtes une armée. Et ça, il y a un méchant saut entre être des esclaves et être une armée. À un tel point même que l'autre génération d'avant a été punie parce qu'elle ne voyait pas sa nouvelle identité. Elle était comme, non, on est encore des esclaves, retournons en Égypte, on ne veut pas aller dans la terre promise, ça va être trop dur, on ne sera pas capable. Puis Dieu leur a dit, OK, vous ne voulez pas, ben tant pis, ça va être vos enfants qui vont rentrer dans la terre promise. Notre identité, souvent, pour une personne, c'est ça qui arrive lorsqu'une personne vient à Jésus-Christ. Elle reçoit une nouvelle identité, mais cette nouvelle identité-là, des fois, elle n'est pas facile à garder ou à se souvenir. Souvent, notre nouvelle identité, on l'oublie parce qu'on se souvient de notre héritage. Notre héritage, c'est vraiment d'où on vient, les erreurs qu'on a faites, les fautes que les gens ont faites contre nous. L'héritage est souvent le plus grand obstacle à se souvenir de quel est, excusez-moi, je reprends. Notre héritage est souvent le plus grand obstacle à se souvenir de quelle est notre nouvelle identité. Lorsque Jésus-Christ nous a sauvés, il promet qu'on a été pardonné de toutes nos fautes qu'on a faites. Il se promet que maintenant, tout ce qu'on était, on était un alcoolique, on est rendu un chrétien. On était pervers, ben on est rendu un chrétien. On était des menteurs, on est devenu des chrétiens. On a une nouvelle identité. On peut être des chrétiens qui combattent contre l'alcoolisme, contre le mensonge, mais nous ne sommes plus ce que nous étions. Notre héritage ne doit plus dicter la bataille qui s'en vient. Un soldat, quand il est en combat, n'a pas le temps de commencer à penser non, c'est vrai, moi je suis pas un bon tireur, je peux pas tirer contre les gens, j'ai jamais été un bon tireur, pis tout ça. Non, t'es un soldat, tu tires sur les gens qui arrivent. T'as pas le temps de commencer à penser de ce que tu étais. Dans la guerre contre l'idolâtrie, il ne faut laisser aucune place aux pensées où est-ce qu'on était. Non, j'étais comme ça, je peux pas rien faire, Dieu ne peut pas m'accepter, Dieu ne veut pas, je peux pas entrer dans son armée, non. Ce n'est pas, notre identité ne dépend plus de ce que l'on était ou de ce que l'on a fait. Notre identité dépend seulement de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a fait de nous son armée. Et pour ça, j'aimerais dire notre héritage, tout ce qu'on était avant, que je simplifie dans un mot qui est héritage, notre héritage peut nous expliquer, mais il ne peut pas dicter le combat qui s'en vient. Alors, votre héritage peut expliquer comment vous êtes présentement, mais ne peut pas dicter le combat qui s'en vient. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez un héritage très difficile. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un, puis je lui disais, raconte-moi un peu ton histoire. Puis son histoire commence, moi je suis né dans une famille, j'ai grandi selon les valeurs bibliques. OK, c'est bon. Puis là, finalement, elle me dit, je sais pas si tu le sais, mais une fille sur six au Canada se font violer. Et moi je suis la gagnante, c'est moi qui a été la fille sur six. M'avoue ça, soudainement comme ça. Puis là, moi, je suis comme, d'accord, OK. Fait qu'elle continue à raconter son histoire comme si de rien n'était. Puis là, je suis comme, OK, ça a-tu été difficile de me raconter ça? Pourquoi tu m'as raconté ça? Puis là, elle m'a dit, mais c'est parce que Dieu veut que je fasse la paix avec ça. Dieu voulait qu'elle fasse la paix avec son passé. Et la première manière de faire, c'était de s'ouvrir sur son passé. C'était de partager son passé. Elle ne voulait plus que son passé lui dicte ce qu'elle allait faire. Elle ne voulait plus que son passé lui dicte « Non, moi, je suis pas quelqu'un de bien, je suis sale. Je suis pas quelqu'un dont Dieu peut se servir. C'est mieux que je parle pas trop. » Non, elle se disait « Non, maintenant, je ne suis plus cette jeune fille qui a été violée. Je suis maintenant un soldat de Jésus-Christ. » Et ça, c'est quelque chose, c'était un gros pas que Dieu lui demandait de faire. Et j'étais le premier gars à qui on en parlait. Fait que moi, j'ai été vraiment comme un peu troublé sur le coup. J'étais comme, OK, d'accord. Mais elle a commencé à faire le pas. Et notre nouvelle identité, ça va être la même chose. Peut-être que vous n'avez pas eu un passé aussi troublé que ça. Peut-être que votre enfance, votre adolescence a été assez tranquille. Mais quand même, lorsqu'on se rend compte de nos défauts, de qui on est, on oublie qu'on est des soldats de Jésus-Christ. Mais il faut constamment se rappeler que ce que l'on est ne dépend pas de qui on était et de qui on est, mais dépend de Jésus-Christ. Et ça, des fois, on peut avoir des images, des petites images, ça nous aide à nous rappeler qui on est. J'ai une bague autour du cou. Pour ceux qui ont peut-être avez-vous remarqué cette bague-là, je trouvais ça dommage que le fiancé attendait jusqu'au mariage avant de finalement avoir une bague. Il y en a des fois qui font deux joncs. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est je veux avoir un rappel pendant mes fiançailles que je me suis promis à une seule femme et que c'est avec elle que je vais passer le reste de ma vie. Donc, j'ai décidé de porter une bague autour du cou. Et je peux vous dire, des fois, je me lève le matin puis je regarde ça, c'est comme, oui, je suis son fiancé. Je suis avec elle. Une image, là, c'est super utile. Dieu a donné une image très concrète, c'est la circoncision. Ça, c'est super concret comme image, là. Tu t'enlèves un bout de peau, tu t'en souviens pour le reste de ta vie. Une autre image que Dieu avait donnée, il avait dit, « J'ai roulé votre honte loin de vous. » Et ils ont même appelé un lieu qui s'appelle Gilgal, en souvenir du fait qu'il allait rouler. Et moi, je me suis dit, tiens, je veux savoir ce que ça veut dire concrètement. Fait que j'ai amené ça, un ballon. Puis là, je me disais, j'ai trouvé ça dans la classe d'école du dimanche. Puis là, je me disais, si on appelait un lieu Gilgal, c'est que rouler, ça doit avoir marqué, tu sais. Dieu aura dit, j'ai roulé votre honte. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre un ballon parce que dans l'armée de Jésus-Christ, on a toujours un ballon de fourni. Fait que ça, c'est mon identité. C'est qu'est-ce que j'étais en Jésus-Christ. C'est qu'est-ce que tous mes péchés, tous mes défauts, tout qu'est-ce que je pense qui fait de moi une personne que Dieu ne peut pas accepter. Fait que Dieu, il dit, je prends ça. Puis vous voyez, je suis pas bon au bowling, mais je prends ça, puis c'est loin, c'est parti. Je le fais rouler, merci de l'avoir ramassé. Tu peux le garder en attendant. Fait que si vous vous souvenez pas d'aucune image, l'image du ballon, peut-être vous allez vous en souvenir. Fait que dès que vous voyez un ballon, là, si vous voulez une image pour vous souvenir de qui vous êtes en Jésus-Christ, prenez votre ballon et dites, ça, c'est tout ce que je pense qui ne me permet pas de pouvoir être accepté de Dieu. Puis on roule. Notre honte a été roulée loin de nous aussi. On est plus ce que l'on était. Et ça, c'est la première des choses qu'on a besoin pour une armée. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le fait de se faire circoncire, c'était pas le move stratégique le plus intelligent. Quand on part en guerre, là, puis on est en plein devant l'ennemi, puis là, on se dit, OK, c'est quoi notre prochain move? Puis là, Dieu, il dit, circoncis-toi. c'est pas le meilleur move stratégique à faire. Tu te retrouves un petit peu handicapé. Et c'est drôle, parce que quand on rentre dans l'armée de Jésus-Christ, on a l'impression que c'est la même chose. Il nous demande des choses qui nous semblent, à notre idée, complètement fous. Tu sais, tu veux être quelqu'un, puis là, Jésus-Christ, il te demande, humilie-toi devant cette autre personne-là. Non, non, mais si je m'humilie devant cette personne-là, elle ne pensera pas bien de moi. Non, non, humilie-toi. Ou bien, va demander pardon à cette personne-là. Oui, mais elle ne fait pas mal plus que moi. C'est pas grave, va demander pardon à cette personne-là. Les moves que Jésus-Christ nous demande de faire, des fois, on a l'impression que c'est pas stratégique. C'est pas... Mais Dieu sait que la seule manière dont on va pouvoir vraiment connaître son identité, c'est des fois de lui faire vraiment confiance et que lui prend soin de nous, c'est en nous faisant faire des moves qu'on a l'impression qu'ils sont pas stratégiques. Fait que, première des choses, l'identité. Deuxième des choses, alors si on veut juste changer... Tout est fourni dans l'armée de Jésus. Tout est fourni dans l'armée de Jésus. Ça vient avec un gros package deal. Je veux juste lire les versets 10 à 12. Fait qu'après avoir circoncis, après avoir eu mal, après avoir guéri, après avoir roulé leur honte loin d'eux, les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Les Israélites, Dieu leur avait pas juste dit « Sortez d'Égypte, allez à la conquête, débrouillez-vous. Je vous ai sorti, j'en ai fait assez. Non, Dieu a dit, allez-y, je prends soin de vous. Je vais m'occuper de vous autres. Je vais m'occuper de ce que vous avez besoin. Alors, une des manières dont Dieu a pourvu à leurs besoins, c'est par la manne. La manne, c'était du pain qui tombe directement du ciel. Il paraît que ça goûtait le gâteau au miel. Je ne sais pas, j'ai toujours voulu en goûter. Mais la manne, c'était littéralement de la nourriture qui tombe du ciel. Pour ceux dont l'épicerie était très élevée, est-ce que vous trouvez ça le fun? De la nourriture qui tombe du ciel. C'est vraiment le fun. Dieu pourvoyait d'une manière miraculeuse à leurs besoins. Et ça dit dans ce texte-là qu'à partir de ce moment-là, quand ils sont arrivés dans le pays que Dieu leur avait promis et qu'ils ont commencé à manger des produits du pays, la manne a cessé. Il n'y avait plus besoin de manne parce que là, maintenant, il y avait les produits que le pays allait leur fournir. Dans l'armée, c'est clair, habituellement dans une armée, tout est fourni. Vous partez en guerre, on vous fournit ce qu'on a besoin, dépendant des petites exceptions. Mais dans l'armée de Jésus-Christ, tout vient avec. On part dans la guerre de l'idolâtrie. Jésus nous sauve, nous donne une nouvelle identité, nous dit maintenant, voici ce que tu es, tu n'étais plus ce que tu étais. Mais après, il ne dit pas, bon, ben maintenant que je t'ai sauvé, vas-y, lâche-toi là, bats-toi tout seul contre l'idolâtrie. T'es capable, let's go. Jésus-Christ nous fournit ce dont on a besoin pour le combat contre l'idolâtrie. Parfois, il va le faire de différentes manières. Il peut fournir de différentes façons. Parfois, il va nous donner ce qu'on a besoin de manière surnaturelle. On manque de force là pour combattre l'idolâtrie. On a besoin d'une intervention de Dieu spéciale. Dieu est prêt à nous donner ce qu'on a besoin. On n'est pas mature, on ne sait pas trop comment ça marche encore la vie chrétienne, on n'avance pas à pas. Eh bien, Dieu peut pourvoir de manière supernaturelle, je ne sais pas si ça se dit, supernaturelle, il peut pourvoir pour nos besoins. Mais, parfois, Dieu fournit aussi de manière naturelle. Dans notre combat contre l'idolâtrie, Dieu a pourvu à des moyens surnaturels. Ah, c'est ça, surnaturels. Et à des moyens naturels. Et des fois, on a l'impression que Dieu devrait toujours fournir ce dont on a besoin de manière surnaturelle. J'ai eu une délivrance incroyable au début de ma vie chrétienne. Je devrais m'attendre à la même chose. J'entendais l'Esprit me parler, me diriger au début de ma vie chrétienne. Ça devrait être tout le temps pareil, non? Mais Dieu nous montre que ce n'est pas toujours pareil. Des fois, à cause de notre immaturité ou dans des circonstances exceptionnelles, Dieu veut pourvoir de manière surnaturelle, mais je vous dirais qu'en général, Dieu pourvoit de manière très naturelle à ce qu'on a besoin. quand je vous dis ça des manières naturelles, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous êtes capable de me dire quels sont les moyens naturels que Dieu nous donne pour combattre contre l'idolâtrie? En avez-vous? S'il y en a qui veulent lever la voix. Il n'y a aucune mauvaise réponse, sauf les mauvaises. Oui. Détruire les idoles. Comment on fait? C'est ça. Qu'est-ce que les moyens que Dieu nous donne pour les détruire? Hein? Fait que physiquement, OK, détruire les idoles, les enlever, oui. Comment Dieu lui dit? Super. Fait que vous avez nommé la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un moyen naturel que Dieu nous donne pour combattre les idoles. Quand on dit la parole de Dieu, on parle de ça, la Bible. Fait que la Bible est là pour Dieu nous raconte son histoire de comment il est en train de détruire. Et des fois, pour participer au combat, Dieu nous demande, lis ma parole. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, vous pensez? La prière. La prière, Dieu veut qu'on lui demande. Dieu n'a pas dit, bon, je vais le faire, fait que toi, tu n'as pas besoin de demander. Non, demande-le-moi. Est-ce que tu veux que je te délivre? Est-ce que tu veux que je le fasse? Oui, la prière. Oui. S'entourer de bons conseillers, ça c'est excellent. On s'entoure des gens. Dieu nous a donné des gens autour qui des fois ont vécu la même situation que nous, qui sont plus sages, qui ont plus d'expérience. Fait qu'il veut qu'on s'entoure de ces gens-là. Fait qu'on a ici quelques exemples. Il peut y en avoir d'autres, mais déjà on a trois principales. Fait que des fois, si vous vous demandez, mais comment ça se fait que j'avance pas? Parfois, Dieu veut que l'on puisse combattre de manière naturelle. Alors, les Israélites, arrivés dans la terre promise, ils ne recevraient plus de pain qui tombe du ciel. Alors là, s'ils s'attendaient, admettons qu'ils seraient restés toujours au même stade, ils auraient mangé les fruits du pays, ils auraient mangé le blé. Puis là, ils attendent l'année prochaine. « Hey, ça n'a pas poussé. » Moi, ça se fait, ça n'a pas poussé. Mais c'est normal. Faut que pour avoir encore du blé puis tout ça, ben il faut que tu travailles, faut que tu enlèves dans la terre, faut que tu sèmes, etc. Fait que Dieu nous demande la même chose. Des fois, ça peut prendre du temps dans notre combat contre l'idolâtrie. Des fois, on a l'impression que c'est long, mais Dieu veut que ce soit un travail pour qu'on en puisse en récolter les fruits et il veut nous faire participer à ça. Ça va? Ça va? Dernier point. Jésus se donne lui-même. C'est sa guerre. Alors si, non seulement il nous donne des moyens naturels, des moyens surnaturels, mais Jésus se donne lui-même dans cette guerre. Et ça, je pense que c'est notre plus grand encouragement qu'on a besoin dans la guerre contre l'idolâtrie. Si on va au verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » Il répondit, « Non. » Ah, d'accord. « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Et Josué se conforma à cet ordre. Et on arrête là pour le passage. Qui est cet homme mystérieux qui s'identifie comme étant le chef de l'armée de l'Éternel? On a des bons indices. Ce passage-là est censé nous rappeler que quand Moïse a rencontré le buisson ardent, on lui avait demandé aussi d'enlever ses sandales, un signe de respect, parce que le lieu où il se tenait était saint. Fait que c'était pas le lieu en tant que tel, mais c'était la personne qui était là qui le rendait saint. Alors, cette personne-là, Josué, se prosterne devant lui et l'adore. Alors, on voit que dans le reste de la Bible, si c'était un ange ou un esprit, l'adoration, il refusait parce que c'était pas un dieu. Alors, je vous dirais qu'on a 99,9% de chances qu'on a ici affaire à Dieu lui-même qui est descendu vers Josué. Et comme la Bible dit que c'est le Fils qui se révèle aux gens, eh bien, je pense qu'on a ici une apparition de Jésus avant même qu'il vienne sur terre. Josué a rencontré le vrai Josué. Jésus, Josué, c'est la même racine, le même nom. C'est Yeshua, dans la racine araméenne, je crois. Alors, Josué a rencontré le vrai Josué. Et c'est drôle, la question qu'il lui pose, c'est « Es-tu pour nos ennemis et es-tu pour nous? » Puis là, le chef de l'armée de l'Éternel dit non. Je sais pas si tu réponds pas à ma question, là. C'est quoi la réponse? Et il dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » La question, c'est pas « Est-ce que je suis avec toi ou contre toi? » C'est « Est-ce que toi, tu es avec moi? » Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Puis Josué le reconnaît et il se met à genoux et dit, OK, que dit mon Seigneur, mon serviteur? Jésus ne veut pas savoir. La question n'est pas, est-ce que Jésus est avec vous ou contre vous? C'est de savoir, est-ce que vous, vous êtes rentré dans l'armée de Jésus ou vous êtes contre lui? Parce que des fois, la guerre, on a l'impression que la guerre devient notre guerre. Et quand ça devient notre guerre, c'est est-ce que les gens sont pour nous ou contre nous? Est-ce que les gens me donnent ce que je veux ou ils ne me le donnent pas? Est-ce que les gens pourvoient à la manière dont je pense ou ils ne pourvoient pas? Dans ce cas-là, c'est non. La question, c'est est-ce que vous êtes Jésus qui parle? Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, j'ai pourvu à des moyens. Moi, c'est moi qui donne les ordres ici, c'est pas vous autres. Et ça peut sembler quelque chose pour notre société où est-ce que l'autorité, souvent la dernière autorité, c'est nous. Et ça peut sembler gros, ça peut sembler fort, mais un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est soumis à Jésus. Et Jésus dit, j'arrive maintenant. Et je peux vous dire, on parlait avec Alexandre cette semaine de Josué. Il me disait probablement deux réactions que Josué a eues. Probablement de la crainte. Dieu est là. La crainte. Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la crainte? Mais aussi, probablement que Josué était rassuré. Maintenant, dans la guerre dans laquelle ils vont aller, ils ne seront pas tout seuls. Le chef de l'armée de l'Éternel est là. L'épée est dégainée, il est prêt. Il est prêt au combat. L'épée n'est pas dans son fourreau, l'épée est dégainée parce que la guerre va commencer. Et si on continue dans Josué, on peut voir que la guerre contre l'idolâtrie, il y a différents... Tu sais, obéir à Jésus-Christ par la foi, on pourrait le voir dans le chapitre 6. Comment est-ce qu'il faut traiter le péché de manière drastique dans le chapitre 7. On a différentes choses qu'on peut voir dans la guerre contre l'idolâtrie dans Josué, mais on n'aura pas le temps. Mais une des choses qui est essentielle, c'est qu'on a besoin de la présence de Jésus. Et Jésus qui est Dieu n'a pas attendu que nous, on monte vers lui pour entrer dans sa présence. Mais Jésus lui-même est descendu vers nous. Puis il a dit, « Me voici, j'arrive maintenant, j'offre la paix, j'offre ma grâce, j'offre mon amour à tous ceux qui veulent le recevoir. Vous n'avez qu'à demander parce que je la donne gratuitement. » Est-ce que vous vous êtes retrouvé tout seul dans votre bataille récemment? Est-ce que vous avez l'impression de vous fatiguer dans la bataille, parce que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez la paix pour vos âmes. » Fait que oui, Jésus s'en vient, il y a des instructions, il nous demande de faire des choses. Mais Jésus vient parce que son but, c'est qu'on ait la paix pour nos âmes. L'idolâtrie qui est en train de détruire notre vie, la vie des autres et celle de notre société. Jésus-Christ veut y faire la guerre. Et il veut que vous rentriez dans son armée. Il veut vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de vous amener aucun fardeau. Ce n'est pas que Jésus commence à vous sauver, vous laisse aller. C'est que Jésus vous sauve et continue de vous sauver jour après jour. Vous pouvez continuer de lui demander jour après jour. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Puis... J'avais un dernier chant, j'imagine. Ouais, OK, c'est bon. Juste être sûr. Fait que, je vais juste vous demander, je sais que ça se fait tout le temps, mais là, on parle de la guerre contre l'idolâtrie. Je vous demanderais de fermer vos yeux, s'il vous plaît. Parce que je veux qu'on puisse parler à ce Dieu-là, qui, lui, veut enlever l'idolâtrie de notre âme. Peut-être que pour certains d'entre vous qui êtes ici, vous avez l'impression que, justement, vous ne saviez pas trop c'était quoi le problème. Vous avez essayé différentes choses dans votre vie et vous vous rendez compte que c'est de Jésus-Christ que vous avez besoin. Jésus-Christ est là et il attend juste que vous puissiez lui demander. Peut-être pour certains d'entre vous, vous voyez un combat spécifique dans votre vie, une idolâtrie spécifique. Dieu, oui, peut pourvoir de manière surnaturelle, mais il a pourvu à différents moyens naturels. Vous avez l'Église qui est ici. Les gens ici, il y a des gens qui ont de l'expérience, il y a des gens qui veulent vous aider, il y a des gens qui veulent vous écouter dans ce que vous avez besoin. Des fois, Dieu va pouvoir de manière surnaturelle. Il y a sa parole qui va pourvoir. Il y a la prière. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que Dieu est loin, que Dieu n'est pas là présentement. Mais j'aimerais ça qu'on puisse ensemble juste réaffirmer sa présence. C'est-à-dire, on veut juste dire à Jésus-Christ, c'est pas que tu es loin, on le sait que tu es proche. Fait que je vais juste prier pour lui demander, puis après je vais vous laisser avec les musiciens. Seigneur Jésus, c'est toi qui connais la situation de chaque personne qui est ici ce matin. Moi, je la connais pas. Chaque personne ici vient avec ses propres fardeaux, avec son propre cœur devant toi. Et Seigneur, tu vois comment est-ce qu'on a décidé de te repousser. Comment est-ce qu'on a décidé d'agir par nous-mêmes, d'agir par nos propres moyens, avec ce qui nous semblait le plus logique. Mais Seigneur, toi, ce que tu nous demandes de nous laisser, te laisser être avec nous. C'est de ta présence qu'on a le plus besoin. Et Seigneur Jésus, c'est cette présence que je veux te demander. S'il y a des gens qui n'ont jamais goûté à ta présence, je te prie que dès aujourd'hui, ils puissent y goûter, Seigneur. S'il y a des gens dans la salle qui vivent un fardeau, Seigneur, qui se battent, et parfois qui se battent tout seuls, je te prie que tu puisses leur montrer que tu es avec eux. Et Seigneur, merci pour les moyens que tu nous as donnés, Seigneur, pour combattre cette idolâtrie. Si certains ont besoin de s'en rappeler, peut-être que tu vas donner des idées originales, Seigneur, pour faire des rappels, Seigneur, un bracelet, un collier, Seigneur. Si, je te prie que tu nous as donné de l'imagination et je te remercie, Seigneur, parce qu'on n'a pas besoin d'être tous pareils. Et Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu puisses vraiment nous guérir. On attend impatiemment la fin de la guerre quand tu vas revenir et que tu vas détruire tous les ennemis jusqu'à la fin, Seigneur. Et c'est en ton nom que je te prie, Seigneur Jésus. Amen.